On est devant un mur, et face au mur, il faut décélérer, et puis peut-être voir autrement. Avoir des nouvelles oreilles, des nouveaux yeux.
CO2, mon amour.
Et faire une transition, et c'est ce qu'on demande aux politiques, de faire une transition vers, par exemple, se servir du soleil qui est gratuit, du vent qui est gratuit. Faire de la terre qu'elle ne soit pas complètement amorphe et anéantie par nos produits insecticides et pesticides.
Avec Denis Chessou.
Mais il faut que les gens sortent dans la rue et qu'on se réveille un peu. Parce que sinon, là, on va vraiment dans le mur. Et ce n'est pas dans 20 ans qu'il faut se réveiller, c'est maintenant.
Là. Sur France Inter.
Eh ben oui, c'est là, Juliette Binoche, elle a raison. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, enfin en tout cas qui essaie. Avec Antoine Gomez aujourd'hui à la technique, et nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe, et c'est Camille Blanès qui réalise la dite émission. Qui devrait commencer par une petite humeur, parce que la semaine dernière, j'évoquais dans mon édito la soif immense de notre gouvernement de sauver la biodiversité en pleine forme. Et le Conseil national de la protection de la nature indépendant qui s'est pris un petit coup de glyphosate comme ça dans les narines pour l'aider à disparaître. Mais comme on veut donc une écologie agile, adaptative, disruptive, traduction peu contraignante, nous avons aussi dans le même état d'esprit un joli petit projet, c'est un projet de décret dans les tuyaux concernant les 2700 sites remarquables classés qui couvrent 2%, pas plus du territoire, et qui risquent de voir leur statut remis en question. Alors un site classé, c'est la dune du Pilat, les Calanques de Marseille, les Gorges du Tarn, la vallée de l'Erdre, enfin bref, de vrais conservatoires de biodiversité. Il s'agit depuis plus de 100 ans de les préserver de toute, dégradation, nous rappelle le site de Reporter qui est sur le coup. Alors aujourd'hui, pour un agrandissement, une construction, il faut un coup de tampon ministériel. Et demain, ce sera plus cool parce que ce sera au niveau local, préfectoral, en vous disant, vous voyez, on déconcentre. Donc un vrai petit bonheur pour les promoteurs souvent à caractère immobilier, mais aussi de retenue collinaire, comme dans le massif du Mont-Blanc, en brandissant donc la carotte habituelle de l'impôt foncier et aussi donc générateur d'emplois au nez de municipalités plus ou moins exemptes. On va donc créer de l'activité en déprotégeant un site. Alors qu'un site, on le sait aujourd'hui, bien protégé, rapporte de l'argent. Une fois de plus, sauver Notre-Dame et sauver la nature en état de marche, c'est pas pareil, notre cerveau n'active pas les mêmes zones. Alors il y a fort à parier que des paysages splendides, uniquement peuplés jusqu'ici de tout ce qui ne compte pas en matière économique, des couchers de soleil, des vastes landes sauvages caressées par le vent, des envols de perdreaux, des colonies de lys des marais, soient rapidement aménagés, mis en coupe réglée, rentabilisés. Depuis l'enterrement donc annoncé du Conseil national de protection de la nature, dont je vous parlais, qui va se soucier de l'importance des couloirs migratoires, de la nidification du hibou des marais, du tétralyre, avant d'implanter donc sous la pression industrielle ou touristique de nécessaires rocades, éoliennes, centres de loisirs tarifés clés en main, extension de domaines skiables, parking, j'en passe et des meilleurs. Alors aujourd'hui, personne ne dira, bien sûr qu'on ne dira plus, l'écologie ça commence à bien faire, ça personne n'osera le faire. Mais sommes-nous face aux dissonances cognitives habituelles, ou est-ce l'art législatif de contourner l'obstacle? Je rappelle que l'obstacle c'est donc la biodiversité, c'est notre assurance-vie d'aujourd'hui et de demain. Et ce week-end, manifestation contre Europa City à Gonesse sur la zone de la future gare et dédiée à ce futur temple marchand qui assèchera donc les autres. Et puis quand même, on a besoin de bonnes nouvelles. Oui, on est comme ça dans cette émission. Bonne nouvelle emplumée. Dans le parc national des Cévennes, des associations ont relâché 3 gypaètes barbus qui nous en fait une 60aine de couples maintenant en France. Vous voyez, il n'y a pas que des gens hostiles qui pensent que le béton et l'asphalte sont la meilleure parade contre les taupes qui ravagent nos rangs d'oignons. Union européenne, 500 millions de personnes, et moi. Eh bien, on va pouvoir en parler parce que Union européenne et environnement, quand même, il y a des choses qui fonctionnent pas mal, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on le sait. Et donc, j'ai avec grand plaisir, je vais accueillir Sandrine Bellier. Bonjour Sandrine Bellier.
Bonjour Denis.
Alors, vous êtes directrice aujourd'hui de l'ONG Humanité et Biodiversité. En quelques mots, qu'est-ce que l'on fait avec chez Humanité et Biodiversité?
Chez Humanité et Biodiversité, au quotidien, on travaille pour la préservation de la biodiversité. Mais et quand on parle de préserver la biodiversité, c'est la qualité de nos milieux, c'est la qualité de l'alimentation. Enfin, c'est l'humanité entière qui dépend de la bonne santé de notre environnement et notamment de la diversité biologique, puisque nous, humains, nous faisons partie de la biodiversité.
Alors, je vous ai fait venir parce qu'en fait, vous êtes aussi ancienne députée Europe Écologie. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat. Vous pouvez parler donc tout à fait tranquillement. Et on a envie de savoir que serait en fait l'environnement sans l'Union européenne, parce qu'on dit très souvent qu'on a plus de 80% des lois françaises environnementales qui sont des déclinaisons de textes européens.
Sans l'Union européenne et depuis 50 ans, notre environnement va pas très très bien, mais ce serait assurément pire. Parce que on doit aujourd'hui, ce sont les textes européens, c'est l'Union européenne qui tire vers le haut les États membres en matière d'environnement, que ce soit dans le domaine des déchets, dans le domaine de la qualité de l'eau, dans le domaine de la qualité de l'air, dans le domaine de la préservation de la biodiversité, dans le domaine de l'alimentation, de la transparence. Enfin, les exemples sont nombreux. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir dessus.
C'est ce que nous allons faire. Donc, on va débuter en musique. Tout de suite, puisque Camille Blanès, notre réalisatrice, a trouvé cette petite pépite. Ça date de quoi, des années 80-90.
Je me sens loin du froid des banquises, je me sens loin de la chaleur des îles. Tes villes d'or, tes villes grises, c'est mon trésor, mon assise. Je suis d'accord pour l'accordéon, mais tu te prends encore pour Napoléon. C'est pas le siècle des lumières, celui des rois du désert. Ma vie chez toi, je le sens chez moi. Je me sens bien chez toi, je le sens chez moi. Avec ce passé qui s'accroche à toi, tes vieilles histoires, tes meubles de roi, c'est celui de mes premiers pas, ce grand décor d'opéra. Des souvenirs de géographie, jusqu'aux terres vierges, jusqu'à l'infini. Laissez-moi mon parti pris pour cette Miss Monde dans l'oubli. Ma vieille Europe, t'es démodée, t'es pas vraiment rock. Y'a rien à faire, t'es tempéré, t'es pas ton époque. Je me sens chez moi. Je me sens bien chez toi. Je me sens chez moi. Je suis comme toi. Je peux pas me décider pour mes amours. Comme j'ai hésité, je voudrais pas te donner de conseils.
Ma vieille Europe, choisie aussi par Thierry Dupin, notre programmateur. Pour être dans le coup aujourd'hui, puisque c'est le thème de CO2, mon amour.
Messieurs muguets, beau citron jaune, pardon la flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Donc extrait de la chanson de Souchon, bien sûr, sur France Inter. Sandrine Bélier avec nous, directrice de l'ONG Humanité et Biodiversité, qui a quand même bien fréquenté donc l'Europe et qui regarde aussi donc cela avec un certain recul aujourd'hui, mais quand même qui s'y intéresse très fortement. Dans les années 70, quand tout ceci, on va dire, a commencé, qu'est-ce que c'était l'environnement à l'Union européenne?
Dans les années 70, on commence à peine à s'occuper des questions européennes, et ça, on va s'occuper de, il va y avoir une approche par secteur. Donc, par exemple, c'est en 75 la première directive sur les déchets et l'interdiction des décharges sauvages. On a tous connu, enfin pour les plus âgés d'entre nous, les décharges sauvages. C'est une réglementation européenne qui a mis fin aux décharges sauvages, mis en place les règles de stockage, de prélèvement des déchets, de leur traitement. Tout ça sont des règles européennes qu'ensuite les États membres ont transposé dans ce qui était le cas en France, par exemple.
Ne nous écrivez pas pour nous dire j'ai une décharge sauvage encore à côté de chez moi. On s'en doute bien que tout n'est pas quand même complètement nickel, mais c'est quand même une réalité, ça va un petit peu mieux.
Malheureusement, oui, c'est tout n'est pas réglé. C'est pas parce qu'on a des textes européens que forcément ils sont appliqués. On en reparlera. Ensuite, 20 ans plus tard, on a eu une approche qui était un peu plus horizontale. Donc de prendre en considération l'environnement et par rapport à des pollutions, par rapport aux causes de pollution et de dégradation de l'environnement. Un exemple qui d'ailleurs, si la France l'avait appliqué dès sa promulgation en 91, nous n'aurions plus de problème d'algues vertes sur nos plages en été. Oui. 91, l'Union européenne prend des mesures et une directive sur les nitrates que d'ailleurs l'Espagne et les Pays-Bas se sont fait fort d'appliquer. Donc eux n'ont plus ce problème d'algues vertes. En France, ça a beaucoup traîné, il y a eu des contentieux, la France a été condamnée. Et voyez le résultat.
Et on a beaucoup acheté la paix sociale. Social agricole aussi en Bretagne.
Et on a encore des problèmes donc de pollution dans ce domaine.
Alors je précise quand même qu'on en a quand même beaucoup moins, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu des efforts, qu'aujourd'hui, de mémoire, sur la Bretagne, on doit avoir 30 mg donc de nitrate. Donc ils ont effectivement fait des efforts. Mais on a encore des baies, bien sûr.
Tardivement. Si les efforts avaient été faits 10-20 ans plus tôt, on aurait des résultats aujourd'hui qui seraient meilleurs. Et puis après, on va encore attendre 10-20 ans, et parce que les problèmes environnementaux évoluent aussi, les prises de conscience aussi. Là, on va passer et traiter l'environnement en l'intégrant à d'autres politiques. C'est-à-dire, on va faire sortir l'environnement, les questions de nature et de pollution, de leur sillon et juste de la question purement environnementale. Donc, on va s'intéresser au transport, on va s'intéresser à la question agricole. Et puis, par exemple, c'est dans le début des années 2000 et les nouvelles technologies, la première réglementation européenne sur les organismes génétiquement modifiés. En obligeant à ce qu'il y ait des procédures d'autorisation, à ce qu'il y ait des validations, à ce qu'il y ait des consultations du public. Et puis, de fil en aiguille, on arrivera à une obligation d'étiquetage sur tous les produits alimentaires qui contiennent des organismes génétiquement modifiés.
Et si nous n'avons pas encore notre merveilleuse viande clonée aussi en France ?
C'est aussi parce que l'Union européenne a dit non à la viande clonée qui est aujourd'hui consommée au Brésil, aux États-Unis. Donc, il y a la question alimentaire, notamment, et la question de la santé publique, c'est-à-dire on est passé aussi de la question de la santé de l'environnement à la question de la santé des citoyens. Et fait le lien entre le fait que les pollutions, notre alimentation, en fait tout ce qui portait atteinte à l'environnement, portait atteinte à la santé humaine. Et que les mesures qui étaient prises pour l'environnement, c'est des mesures qui étaient bonnes pour notre santé. Et dans le domaine de la biodiversité, parce que je suis obligée d'en parler, l'évolution s'est faite un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on la première grande directive, c'était dans les années 70, en 79, la directive oiseaux.
Oui.
Parce que, et vous le comprenez, c'est comme l'air, c'est comme l'eau, les oiseaux, les frontières, ils connaissent pas. Donc on a décidé au niveau européen de prendre une directive pour protéger nos oiseaux sur l'ensemble du territoire européen. 20 ans plus tard, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un problème et qu'on perdait de plus en plus d'espèces. Donc protéger juste les espèces animales, c'était pas suffisant.
Donc là, c'était les habitats en 1992.
Il fallait protéger les espaces.
Voilà.
Protéger les espaces, c'est la directive Habitat, Natura 2000. Et là encore, avec une évolution, c'est-à-dire qu'on prend pas... l'Europe prend pas une mesure qui dit on va mettre sous cloche la nature. Natura 2000, c'est elle dit maintenant, si on veut préserver la biodiversité, il faut préserver les espaces et il faut qu'on trouve le moyen d'harmoniser les activités humaines avec la préservation de la nature. Et donc on rentre dans cette logique d'intégration. Et puis, même chemin, on arrive dans les années 2000. Et là, on va commencer à toucher aux autres secteurs. Les autres secteurs, notamment, pour la dernière grande avancée, c'est la directive plastique. Vous savez, le gouvernement a annoncé après l'IBES qu'on allait stopper les déchets plastiques. Figurez-vous que l'Union européenne a adopté une directive en ce sens bien avant l'annonce du gouvernement français.
Il fallait de toute façon la décliner.
Et donc, il va falloir la décliner. Et c'est là aussi une bonne chose pour la biodiversité, parce que l'évaluation a été faite qu'en 2050, si on n'arrêtait pas là l'usage du plastique à usage unique, on aurait plus en kilos de plastique dans nos océans que de poissons.
Oui, c'est ça.
Et chance, donc à 2021, ça a été, on a interdit la pêche en eau profonde, ça a été dans les mesures sur la pêche également la fin de l'aileronnage dans nos eaux européennes et nos flottes européennes. Vous savez, c'est cette pratique qui est absolument horrible de couper les ailerons des requins et puis on relâche les bêtes encore à moitié vivantes. Ben tout ça, c'est au niveau européen qu'on arrive à que les décisions ont été prises on avance.
Oui, tout à fait.
Et c'est pas fini et il reste encore beaucoup de choses à faire. Et je voulais quand même parler aussi une dernière petite chose qui est une grande avancée et qui date de l'année dernière et ça a pris du temps. Alors c'est un peu le souci quand il faut se concerter à 27 États, hein, mais c'est l'interdiction de 3 néonicotinoïdes. Vous savez, ces pesticides tueurs d'abeilles. Eh bien, il y a 10 ans, moi quand j'ai eu mon mandat de députée européenne, on avait à peine réussi à obtenir la suspension pendant 3 ans de ces néonicotinoïdes. Je me souviens qu'on m'avait dit c'est pas assez, il faudrait les interdire. Moi j'avais dit, moi je fais le pari que si on ne les utilise pas pendant 3 ans, on trouvera les alternatives et vous verrez, on finira par les interdire. Et ben banco, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais ces 3 néonicotinoïdes aujourd'hui sont interdits. Et donc ça laisse augurer potentiellement, et si on se donne les moyens d'accompagner nos agriculteurs, nos pratiques agricoles, que le glyphosate, on finira bel et bien par s'en débarrasser. Et peut-être plutôt que on ne le pense.
Il est venu d'ailleurs effectivement un très très beau symbole. Quelqu'un qui connaît tout cela, c'est aussi Géraud Guibert. Bonjour Géraud.
Bonjour Denis.
Vous êtes le président de la Fabrique écologique. Et ça, ça nous intéresse rudement bien parce que vous intéressez à ces problèmes depuis très longtemps aussi, Géraud. Et vous avez sorti donc un très bon rapport sur les enjeux écologiques des élections donc européennes. Alors bon, on va dire que dans les grandes familles, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais climat, biodiversité, en même temps, il y a cette urgence que nous connaissons, que l'Union européenne a eu un rôle moteur dans les négociations internationales. Bon, et puis qu'est-ce que l'on peut dire, on va dire aujourd'hui sur ces deux grandes familles qui vont d'ailleurs ensemble, on ne les sépare pas, hein, climat et biodiversité, ça va ensemble.
Alors Sandrine a tout à fait raison, c'est-à-dire que l'Europe a été très souvent en avance par rapport aux États et même par rapport aux autres continents sur toute une série de sujets, mais reconnaissons que la démarche est loin d'être suffisante, puisque à la fois sur le climat et sur la biodiversité, les tendances continuent à être négatives, en tout cas à être tout à fait insuffisantes pour rétablir la situation. Et c'est d'autant plus important que là, pour le coup, c'est pour l'Europe un sujet de vie quotidienne qui peut être extrêmement fort, parce que ces sujets de climat, de biodiversité, c'est aussi se loger, se nourrir, se déplacer, se promener dans la nature, avoir une santé satisfaisante. Et donc, c'est des sujets très concrets pour les citoyens, d'où le paradoxe qui est l'Europe fait beaucoup de choses, mais n'en fait pas suffisamment, et les citoyens ne le voient pas assez. Prenons quelques exemples. Sur la biodiversité, par exemple, Sandrine a eu raison de rappeler qu'elle avait pris de l'avance, l'Europe a pris de l'avance sur un certain nombre de sujets, mais il y a encore 50% des espèces en Europe qui sont en très grande difficulté. Et le programme budgétaire, le petit bout de programme budgétaire européen qui est consacré sur ce sujet est très limité en montant et ne concerne que 30% des espèces. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu pour les futurs parlementaires européens d'avoir une action la plus résolue possible sur ce sujet de climat et biodiversité.
Et si on regarde aussi Géraud Guibert, parce que donc votre rapport le met bien en avant, enfin, s'il y a bien un domaine où c'est un peu le désert, pardonnez-moi, mais c'est quand même la politique énergétique. On n'a pas de politique énergétique commune. Enfin, les compétences de l'Union européenne sont très limitées dans ce domaine.
Alors, elles sont très limitées, ce qui explique par exemple les très grandes divergences entre les différents États sur ce sujet, et ce qui explique aussi qu'en termes d'efficacité énergétique, ne serait-ce que par exemple pour rénover votre logement, l'Europe prend des directives générales, mais a bien du mal à faire du concret sur ce sujet. D'où l'idée extrêmement importante qu'il y ait un véritable plan d'investissement au niveau européen pour que vous et moi et l'ensemble des citoyens aient les moyens, aient les financements pour, par exemple, faire des travaux d'isolation thermique dans leur logement. Voilà un enjeu qui est absolument majeur et qui explique qu'un certain nombre de candidats proposent cette idée de plan d'investissement qui, évidemment, manque aujourd'hui au niveau européen. Et c'est bien de la responsabilité de l'Europe d'impulser ce genre de choses.
Mais lorsque l'on voit, par exemple, le plan Juncker sur le fonds pour la transition énergétique, ça représente que 4% des investissements réalisés par l'Union européenne, en fait.
4% et en plus, 30% simplement des investissements de ce fonds ont été affectés à des investissements pro-climat. C'est-à-dire que vous mélangez là-dedans des investissements qui sont favorables au climat et puis des investissements y compris qui sont encore dans des énergies fossiles, dans des autoroutes ou dans des choses qui sont tout à fait contraires au climat et à l'environnement.
113 milliards par an là, qui ont été subventionnés pour les énergies fossiles.
113 milliards par an pour les énergies fossiles, ce qui est absolument considérable. Donc on voit bien qu'il y a encore tout un travail important à faire qui n'est pas très facile et qui exige des décisions fortes et politiquement fortes sur ces sujets. Pour l'avenir.
Oui, alors c'est pour ça que des gens se bougent. Tenez par exemple le répondeur 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour à tous. C'est Lise et Patricia pour vous parler d'Objectif Terre. En ce moment, c'est la campagne pour les élections européennes. On parle beaucoup d'écologie, à tort et à travers. Du coup, c'est très dur pour les électeurs de s'y retrouver. L'écologie, il y en a dans toutes les listes. Alors tout le monde se pose la même question. Pour qui voter ? Et comme 80% de nos lois sur l'environnement nous viennent de l'Union européenne, c'est vraiment important d'aller voter cette fois-ci. C'est pour ça qu'on a lancé Objectif Terre. Mais c'est quoi Objectif Terre ?
C'est un appel citoyen pour une Europe respectueuse de l'environnement. Ça a été lancé par un groupe de citoyens. Ce n'est ni un parti politique ni un mouvement.
Mais comment ça marche ?
On demande aux candidats des 28 pays membres de l'Union européenne de s'engager sur 12 mesures essentielles qui vont nous permettre de relever le défi de la transition écologique à l'échelle de l'Europe. Et on demande à tous les citoyens européens de signer l'appel pour montrer qu'il y a une réelle attente de leur part dans ce domaine.
Et en plus, il y a plein d'autres sympas qui nous soutiennent déjà. Il y a Narcisse Bertrand, Alain Souchon, Cyril Dion, des astronautes et surtout les jeunes. Donc on compte sur vous, rendez-vous sur objectifterre.eu et surtout, partager au maximum.
Merci et à bientôt sur Objectif Terre.
Oui, il y a toujours évidemment ce décalage extrêmement important entre les citoyens et donc nos chers dirigeants, quels qu'ils soient. Vous disiez, Sandrine Bélier, que vous aviez donc signé vous aussi, on va dire, cet appel. Il y a Gérard Feltzer donc, qui est derrière. Et alors, on parle des jeunes. Eh bien, ça tombe très très bien. Bonjour Julie Pasquet.
Bonjour Denis.
Alors Julie, donc parole de jeune avec vous parce que vous avez 21 ans. Vous êtes en Master 1 à Sciences Po Toulouse et aussi à Toulouse Business School. Alors, vous êtes une fille engagée depuis plusieurs années dans des associations étudiantes donc écologistes. Vous avez participé à deux reprises autour des solutions alternatives, parce qu'on a quand même besoin de ça. Non, ça fera une petite différence avec Fred Vargas la semaine dernière. Bon, voilà, on sentait que c'était un peu triste quand même, donc tout ça. Et alors, vous lancez un projet, Up for Europe. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Up for Europe, en fait, c'est un projet en fait étudiant. Le but, c'est d'aller faire le tour d'Europe pendant 3 mois et demi à la rencontre des étudiants pour coécrire et co-construire avec eux un recueil de propositions politiques concrètes pour une Europe plus écologique. Donc le but, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes, de montrer qu'on est acteurs et d'aller sur les territoires européens. Parce que, en fait, c'est aussi le côté travailler en collectif, faire marcher cette solidarité et aller sur les territoires pour co-construire directement avec des étudiants roumains, avec des étudiants norvégiens, des étudiants espagnols, l'Europe que nous voulons pour demain en termes d'écologie.
Alors qu'est-ce que vous voulez justement ? C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vous qui allez vous taper le fardeau qu'on a rempli, donc que souhaitez-vous ?
On veut une Europe où en fait l'écologie c'est la priorité, enfin, c'est très simple, c'est-à-dire que soit inscrit dans les textes le fait qu'aujourd'hui l'écologie soit prise en compte à tous les niveaux, et dans tous les domaines, que ce soit complètement transdomaine et universel en fait. Enfin, c'est ce qu'on demande, et une Europe qui soit aussi plus démocratique, parce qu'en tant que jeunes, nous sommes en fait des électeurs européens, et on a tendance à être un peu oubliés, à être mis de côté. Ça commence à changer avec nos marches pour le climat, nos grèves pour le climat, mais on a plein de choses à apporter et plein de belles idées qu'il faut faire entendre en fait.
Donc c'est Up for Europe.
C'est ça, exactement.
Et alors donc Sandrine Bélier, parce que nous sommes encore évidemment merveilleusement jeunes, un peu moins que vous hein, quand même. Pas exagérer. Lorsque l'on voit donc les différents organismes de cette Union européenne, est-ce que c'est le Conseil européen, est-ce que c'est le Parlement européen pour lequel on va voter, ou bien la Commission européenne qui sont les plus actives sur ces domaines ?
C'est assurément, et en tout cas en termes d'ambition, c'est le Parlement européen qui véritablement est moteur sur les évolutions qu'on connaît en matière d'environnement. Et en même temps, c'est pas surprenant, parce que entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, c'est la seule institution qui est élue au suffrage universel direct et qui représente les citoyens. Donc on pourrait imaginer que celle-ci a vraiment cette dimension européenne et de désir de protection de l'ensemble des citoyens européens. Après, je ferai quand même une petite nuance et puis une petite précision. La commission, on charge souvent la commission. Je rappelle que la commission, il y a des commissaires et qu'il y a un commissaire par État membre. Vous savez, donc c'est un peu comme le gouvernement et chacun place son commissaire. Et en fonction là des intérêts des uns et des autres et des nationalités, ben il y a des sujets qui vont plus ou moins bien avancer. Mais moi, par expérience, et je le dirais, par exemple sur par contre les services, les agents de la commission environnement. On a des gens très motivés, très compétents, mais c'est pas eux qui fixent la ligne politique. La ligne politique, elle est fixée par les commissaires, elle est fixée par les États membres. Et ce qui bloque le plus souvent pour l'avancée en matière d'environnement, ce sont les États membres. Donc ça va bloquer au Conseil, ou potentiellement ça va bloquer en fonction du commissaire et de la nationalité du commissaire et selon son secteur, et bien dans l'avancée d'un certain nombre de textes et de propositions de la part de la Commission.
Ce sont des États qui appliquent ou non les textes ou qui traînent à les transposer.
Alors, il y a trois choses. Il y a d'une part, en effet, on va avoir des retards parce que les États ne transposent pas les textes ou les transposent tardivement ou les transposent insuffisamment. Mais en amont, on va avoir les États membres qui vont s'opposer à l'adoption de textes à l'intérieur du Conseil. Ça a été le cas typiquement pour la directive 4 sur les sols. Pendant des années, on a eu envie d'avoir une directive pour protéger nos sols, les sols pollués, les sols agricoles, donc protéger la qualité des sols, mais aussi avoir des textes qui obligent à la dépollution d'un certain nombre de sols. Et ben, ce texte-là n'a pas pu être adopté parce que le Conseil s'y est toujours opposé, et notamment l'Allemagne ne voulait pas du texte pour des raisons de politique nationale qui lui appartenaient. Elle a bloqué ce texte européen. Donc l'intérêt des citoyens européens, généralement, est bloqué par des intérêts nationaux portés par les gouvernements, par les États membres. Donc n'oublions pas, surtout, à chaque fois que quelqu'un vous dit « c'est l'Europe », l'Europe, c'est le gouvernement français. Quand on prend une décision en matière d'environnement, le ministre de l'environnement français est au Conseil. Il siège, il vote pour, il vote contre. Il a la capacité d'influencer ses collègues. Donc toutes les décisions qui sont prises à l'échelle de l'Union européenne sont prises avec l'aval des gouvernements nationaux.
Et je me dis, c'est qu'une certaine hypocrisie qu'on utilise assez joyeusement, quoi.
Moi, je trouve que c'est un manque de responsabilité. Et en effet, c'est du coup un discours qui n'est pas éclairant et qui favorise pas le fait que les citoyens européens puissent se saisir et faire aussi pression sur leur gouvernement à l'échelle nationale pour qu'ils fassent plus pour eux et pour l'ensemble des citoyens et de leurs voisins européens.
Eh bien, Sandrine Bélier, on va poursuivre ce voyage maintenant en Europe. C'est une émission qui va être un peu écourtée parce que justement, on va avoir donc les candidats donc vers 14h50. On s'offre une petite chanson et après on va partir aussi en Pologne et on rejoindra Jérôme Guibert.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little book keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy have to see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for a time, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burning.
Sita, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Puffy pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning.
happy with the dance sound. Anytime he come round, a madness funny compound. Man a ton, full a ton, clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still.
Bon, bah, c'était un petit coup de burning là sur France Inter. Donc c'était Kofi avec ses origines jamaïcaines. Et, ah bah ouais, ah bah si, il y a ça.
De bonne foi, au fond du cœur, je crois en un monde meilleur. L'homme a de quoi changer la vie à Paris comme à Varsovie.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, ça, je ne savais pas comment vous le lancer, c'était un peu surprenant, mais c'est bien, c'est bien. Et allons-y, oui, Varsovie, pourquoi? Parce qu'on va parler de la Pologne avec Mireille Chiroleux-Assouline, professeure d'économie de l'environnement à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et aussi à l'école d'économie de Paris. On avait déjà parlé avec vous, là, on avait parlé de l'Espagne, on avait parlé d'autres pays, de la Suède, et là, on va parler donc de cette Pologne. Bonjour à vous. Alors, allons-y, effectivement, sur cette Pologne.
Bonjour. La Pologne est très très souvent présentée comme un très mauvais élève. Du point de vue de l'environnement, il y a des aspects sur lesquels c'est vrai et d'autres pour lesquels les résultats sont quand même un peu plus positifs. La Pologne est effectivement caractérisée par sa dépendance au charbon. Elle dispose de ressources charbonnières considérables. Et d'une certaine façon, c'est ce qui lui a permis d'abriter les COP. De façon paradoxale, elle a fait financer l'organisation de ces COP par ces grands groupes charbonniers qui sont peut-être les groupes les plus riches, les groupes industriels les plus riches de Pologne.
Et c'est pour ça qu'on a eu des COP donc à Poznan, à Varsovie, à Katowice, etc.
C'est cela. La Pologne a effectivement une production énergétique qui repose énormément sur le charbon. Pourtant, lorsqu'on lit le rapport environnemental qui a été réalisé sur la Pologne en 2015 par l'OCDE, l'OCDE fait ça couramment sur tous les pays à tour de rôle, l'OCDE félicite, entre guillemets, la Pologne pour avoir quand même réduit légèrement son volume total d'émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2012 de 1%. Alors que la croissance globale de son produit intérieur brut a atteint 56% sur cette période. C'est-à-dire que, bien que la Pologne ait un système énergétique qui repose sur le charbon, qui est l'énergie qui émet le plus de dioxyde de carbone.
Il y a quand même un petit découplage.
Il y a quand même un petit découplage. Alors, ce découplage est dû essentiellement aux efforts de l'industrie manufacturière et au secteur de la construction. En revanche, le secteur de la production énergétique est toujours à l'origine de 42% de ses émissions totales, alors que dans les autres pays de l'OCDE, c'est 32% en moyenne. Donc on voit qu'il y a toujours un poids très très important. Et il y a eu aussi une augmentation des émissions du secteur des transports. Une augmentation forte, plus de 70% sur la même période de 2000 à 2012.
Alors, si on regarde un peu la biodiversité, on va s'intéresser à une forêt qui est quand même assez extraordinaire, qui est la forêt de Białowieża. Et c'est la dernière forêt primaire d'Europe, donc une réserve de biodiversité qui est évidemment menacée par une gestion tout à fait interventionniste de l'État. On est sur 140 000 hectares, on est sur deux territoires, sur la Pologne et aussi la Biélorussie. Et donc c'était cette forêt qui, à la sortie de l'ère glaciaire, couvrait donc l'Europe. C'est devenu une forêt tout à fait de référence. On commence à la déboiser quand même.
Alors, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il n'est pas possible de la déboiser de façon arbitraire et de façon autonome. En 2016, le ministre de l'Environnement polonais de l'époque a donné l'autorisation d'abattre une très grande quantité d'arbres pour des raisons officiellement de lutte contre des insectes qui mangeaient le bois, aussi sous prétexte de sécuriser un certain nombre de voies d'accès et de protéger les éventuels promeneurs. Les organisations non gouvernementales qui se préoccupent d'environnement sont évidemment montées au créneau. Mmh. Et c'est l'Union européenne qui a donné l'ordre de stopper immédiatement ces abattages. Le gouvernement polonais a eu beaucoup de chance parce que l'Union européenne a décidé de ne pas demander à ce que le gouvernement soit en plus condamné à une amende. Mais ces abattages ont cessé. Heureusement que l'Union européenne avait posé ces ces conditions-là.
Je voyais qu'en fait, les Polonais, un sondage assez récent hein, de 2018, étaient sensibles aux problèmes de santé, 59%, je pense que d'ailleurs chez nous, ça doit être aussi la même chose, mais seulement 8% pensent à la protection de l'environnement, ce qui veut dire que culturellement, c'est peut-être pas quand même le sujet numéro un.
Non, c'est peut-être pas le sujet numéro un, mais il faut voir que le sujet numéro un, à mon avis, en Pologne, c'est le sujet de la pollution de l'air. Il y a, parmi les 50 villes européennes les plus polluées, il y a 33 villes polonaises. C'est évidemment considérable. Et l'Agence européenne de l'environnement estime qu'il y a plus de 50 000 morts par an qui sont dues à la pollution de l'air. Mmh. Donc ça, c'est un problème qui est lié aussi assez directement à l'utilisation du charbon, que ce soit par le secteur énergétique, le secteur industriel, par le chauffage résidentiel ou de façon générale des bâtiments et par la circulation automobile. Certains estiment également que le fait que les Allemands vendent leurs véhicules diesel d'occasion qui sont moins performants que les véhicules neufs qui pourraient être acquis maintenant, mais qu'ils les vendent en Pologne, contribuent à augmenter la pollution dans les villes polonaises.
Merci à vous, Mireille Chirolleux-Assouline, donc pour ces précisions sur ce pays quand même de 38 millions d'habitants, de 312 000 km². Petite réaction peut-être, Sandrine Bélier.
Oui, ça me fait du coup en écoutant ce reportage sur la Pologne, ça m'a rappelé le moment où la Pologne présidait le Conseil. Et il y a un sujet qui est apparu, on n'en avait pas tellement entendu parler, c'était les shale gas, le gaz de schiste. Et on parle beaucoup des lobbies à Bruxelles, qui sont pas plus nombreux que dans les autres institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, hein, pour la France par exemple. Avec une grande différence, c'est qu'on a une liste des différents groupes d'intérêt qui sont badgés.
Ils ont un badge avec une couleur particulière.
Comme
donc, d'ailleurs les ONG environnementales aussi.
Mais elles sont aussi des lobbyistes, oui. Et elles représentent aussi des groupements d'intérêt.
Juste avec un peu moins de moyens, c'est tout.
Avec beaucoup moins de moyens. C'est toute la difficulté. Donc il y a ce sujet qui est sorti, on est en train de rediscuter de la politique européenne énergétique, et les Polonais tentaient de faire rentrer en fait les gaz de schiste dans le mix énergétique européen. Eh bien, figurez-vous que c'est le lobby citoyen qui a permis, avec le soutien d'un certain nombre de parlementaires européens, de faire en sorte que le gaz de schiste ne rentre pas dans la politique énergétique européenne. Et par quel biais ? Par le biais d'une commission parlementaire que moi j'ai découverte, qui s'appelle la commission des pétitions du Parlement européen. Et contrairement à ce que son nom, comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'aller revendiquer, d'être contre quelque chose, etc. C'est l'inverse. C'est un citoyen européen qui peut saisir un parlementaire, son parlementaire, le Parlement européen, lorsqu'il considère qu'un des droits que lui garantit les textes européens, n'est pas respecté par un État membre, par une entreprise. Et typiquement, sur les gaz de schiste, on est rentré dans ce cas d'école. Et puis ce sont donc
c'est un citoyen, vous le rappelez,
ça
qui
peut saisir un citoyen.
Son député.
Alors c'est vrai que quand on se regroupe, ça marche un petit peu mieux,
oui,
ça accélère, le dossier passe au-dessus de la pile. Et pour les gaz de schiste, c'est ce qui s'est passé. Il y a des citoyens allemands, il y a des citoyens anglais, il y a des citoyens bulgares, il y a des citoyens français qui ont saisi le Parlement européen en disant « Mais attendez, là, gaz de schiste, problème de pollution de l'eau, atteinte à la biodiversité, risque, etc. » Ça ne rentre pas du tout, là, tous les droits qui protègent en fait notre environnement, notre santé, là, sont menacés. Et ben, c'est sur cette pétition et cette saisine des citoyens que le Parlement européen s'est saisi du dossier et a dit non. Pas de gaz de schiste dans la politique énergétique de l'Union européenne.
Alors, comme il nous reste malheureusement peu de temps avec cette émission donc qui est écourtée, d'abord un grand merci à vous, Sandrine Bélier, et puis j'ai envie d'avoir un petit mot de la fin avec vous, Géraud Guibert, je le rappelle, président de la Fabrique écologique, là aussi, le site de CO2 Mon Amour. Pour vous, quel est l'objet le plus important de la prochaine mandature qui va arriver ?
Alors, un des objets les plus importants, c'est l'évolution de la politique agricole commune, qui, vous savez, est en négociation, et sur laquelle il y a des enjeux majeurs qui représentent 43% du budget européen. Jusqu'à présent, la politique agricole commune, même si elle a évolué, reste très largement orientée vers l'agriculture productiviste. Et on a aujourd'hui en Europe que, par exemple, 6% des surfaces qui sont des surfaces d'agriculture biologique. Et donc, il est tout à fait essentiel que ce modèle évolue et que les crédits qui sont affectés à la politique agricole commune évoluent dans le sens d'un plus grand soutien à l'agriculture extensive, à la protection de l'environnement et à l'agriculture de qualité. De ce point de vue, la négociation reste en cours, mais elle a un enjeu extrêmement fort et elle se heurte évidemment à un certain nombre d'intérêts établis. La grande difficulté qu'il va y avoir, c'est que l'idée de la Commission, c'est que les aides soient dorénavant davantage attribuées au niveau de chaque nation plutôt qu'au niveau européen, ce qui peut laisser la porte à des comportements anti-environnementaux ou anti-écologiques d'un certain nombre d'États, subventionnant beaucoup plus fortement l'agriculture productiviste par rapport à l'agriculture, disons, environnementale. Et donc, voilà un enjeu, là, pour le coup, des deux ou trois prochaines années absolument essentiel.
Écoutez, merci à vous, donc, Jérôme Guibert. On retrouve aussi donc tout ce travail que vous avez effectué, les enjeux écologiques des élections européennes, avec la fabrique écologique. Juste en une phrase, s'il vous plaît, Sandrine Bélier, lorsqu'on parle des quatre principes que l'on connaît, c'est-à-dire précaution, prévention, réparation et pollueur-payeur, le rôle de l'Europe, là?
Ben, ces quatre principes, ils ont d'abord été adoptés à l'échelle de l'Union européenne et c'est le fondement en fait des politiques européennes de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Et on ne pourra pas parler des accords de libre-échange merveilleux et environnement car nous n'avons pas le temps. Mais nous avons un joli petit message aussi pour terminer, 01 56 40 40 35.
Bonjour, ici Cathy Lamry de l'Observatoire du Partage, nouvelle association basée à Montreuil qui s'inscrit dans un mouvement international pour plus de résilience en consommant moins, en polluant moins, mais en partageant plus. Rendez-vous cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Montreuil pour débattre autour de cette notion de partage. Et demain, dimanche 19 mai, de 10h à 17h, venez découvrir les 20 gratiférias organisées dans tous les quartiers de la ville. Une gratiféria, c'est un marché gratuit qui permet de prévenir la production des déchets, de préserver les ressources en favorisant la solidarité et le partage. Offrez une seconde vie aux objets qui ne vous servent plus, mais peuvent être utiles à d'autres. Venez donner ou prendre ce qui vous plaît. Vous pourrez aussi participer à des ateliers de cuisine, de musique, de cirque, de théâtre, de jardinage. Venez nombreux sur les routes du partage en cette première grande expérience citoyenne et solidaire ce week-end à Montreuil. Pour tout savoir, tapez les routes du partage. Merci à tous. Merci CO2 Mon Amour.
On a bien compris qu'on se calmait un peu sur la consommation. Merci à vous. Antoine Gomez à la technique, il faut remercier. Marion Philippe également. Camille Blanès qui réalisait cette émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et puis la semaine prochaine, on parlera de la fête de la nature. Ça va nous faire du bien. Puis je vais vous emmener dans le Cantal. Où ça? Dans l'Artense. Vous connaissez pas? Eh ben, vous découvrirez. On n'est pas loin du Puy de Sancy, etc. C'est très beau. Donc ce sera un reportage. Merci beaucoup donc à vous, Sandrine Bélier, vraiment. Et puis aussi, donc, merci à vous, Julie Pasquet. Voilà, donc pour cette présence. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.